Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un moment assez charnière de l'Allemagne d'après-guerre, le putsch de la brasserie à Munich en 1923.
Oui, bonjour. Un événement mené par Adolf Hitler et on va s'appuyer sur des analyses notamment tirées de Hitler, révolution contre-révolutionnaire et ordre perpétuel.
Exactement. Notre but, c'est de comprendre comment cet échec militaire, parce que c'en fut un, a permis à Hitler de forger une rhétorique bien spécifique, celle d'une révolution contre la révolution. On va regarder un peu le contexte, les faits, et puis surtout décortiquer cette idée.
Bah oui, ce qui est fascinant, c'est ça. Comment un ratage politique complet devient une tribune idéologique, en fait. Hitler, il va retourner l'accusation de haute trahison. Il l'utilise contre ceux qu'il appelle les traîtres de 1918.
Ah oui, ceux de la République de Weimar.
Exactement.
Bon, alors, 1923. Reposons le décor. L'Allemagne est vraiment à genoux, hein. L'hyperinflation est folle. Le mark ne vaut plus rien. On raconte que les gens payaient avec des brouettes de billets. Et puis, il y a l'occupation de la Ruhr par les Français et les Belges.
C'est ça. Et la résistance passive décidée par Berlin, qui plombe encore plus une économie déjà exsangue, c'est un vrai chaos.
Et dans ce chaos, la Bavière, elle fait un peu figure d'îlot. Plus conservatrice, non?
Le texte dit que le nazisme est d'abord sudiste, bavarois, pas prussien.
Tout à fait. C'est une région avec un particularisme fort. Et là, il y a un trio, Karl, Lossow, Seisser, qui joue un peu sa propre partition, qui flirte avec l'idée de défier Berlin.
C'est là que Hitler et son parti, le NSDAP, voient une opportunité, j'imagine.
Exactement. Ils sentent qu'il y a un coup à jouer dans cette atmosphère surchauffée. Et donc, le soir du 8 novembre 1923, au Burger Breukeller, une grande brasserie munichoise.
Voilà. Hitler débarque avec environ 600 SA, sa milice, en plein discours de car.
Assez théâtral, non?
Coup de feu au plafond. Il proclame la révolution nationale.
Oui, très théâtral. Et il force Karl, Lossow et Seisser à le soutenir. Enfin, en apparence.
Parce que ça ne dure pas.
Non, pas du tout. Pendant la nuit, ils se rétractent. Ils préviennent les autorités restées loyales et organisent la riposte.
Et le lendemain, le 9 novembre, c'est la marche vers le centre de Munich.
Oui, menée par Hitler et Ludendorff. Mais ça tourne court. La police bloque le passage près de la Feldherrnallee. Il y a une fusillade, assez brève. 16 nazis tués, 4 policiers aussi. Le putsch est écrasé. Fin de l'histoire, militairement parlant. Fin militaire, mais début d'autre chose. C'est au procès pour haute trahison, en février 24, que ça devient vraiment intéressant, comme vous disiez.
Absolument. Au lieu de se faire petit denier, il transforme le tribunal en scène, en plateforme politique.
Et qu'est-ce qu'il dit, justement? Comment il justifie cette haute trahison?
Il l'assume, mais il la retourne complètement. Il dit en substance, je cite l'idée rapportée par notre source, « Si je suis ici en révolutionnaire, c'est en révolutionnaire contre la révolution, celle de 1918, et contre le crime. » Il ajoute qu'il ne peut y avoir pas de haute trahison contre les traîtres de 1918. En gros, les vrais traîtres, ce sont ceux qui ont fondé la République sur la défaite. Lui, il serait le vrai patriote.
D'accord. Il se pose en restaurateur d'une légitimité perdue.
Exactement. Et c'est là que l'analyse de notre source apporte un éclairage intéressant en distinguant plusieurs termes. Le conservateur, le réactionnaire et le contre-révolutionnaire.
Alors, quelle est la différence selon cette analyse? Le conservateur, bon, il veut garder ce qui existe.
C'est ça. Le réactionnaire, lui, s'oppose au changement. Mais souvent, il est défini par ce contre quoi il lutte. Il n'a pas forcément de projet positif, créateur. Il dépend un peu de son adversaire pour exister.
Et le contre-révolutionnaire, c'est différent?
Oui. Selon cette perspective, le vrai contre-révolutionnaire, il ne fait pas que réagir. Il cherche à fonder ou refonder un ordre qu'il juge juste, supérieur, enraciné. C'est une action positive, fondatrice. L'idée, c'est que ce n'est pas juste revenir en arrière, mais plutôt une sorte de résurrection du principe éternel, mais sous des formes nouvelles, adaptées. Il faut bâtir avant de réagir, sinon la simple réaction s'épuise.
Je vois. Donc, selon cette lecture, Hitler se positionnerait en 1924 comme ce contre-révolutionnaire fondateur.
C'est l'argument qui est avancé, oui. Il ne défend pas Weimar, donc il n'est pas conservateur. Il ne fait pas que la critiquer passivement, donc pas seulement réactionnaire. Il appelle à la détruire pour la remplacer par un ordre nouveau, basé sur sa vision de la nation, de la race, de l'histoire allemande.
Et cet ordre nouveau, il aurait des bases spécifiques? L'analyse en parle?
Oui. Elle suggère que, pour les tenants de cette approche, il faut s'appuyer sur les médiations naturelles, la famille, le métier, la communauté locale. Restaurer une autorité forte, une auctoritas, mais aussi une forme de subsidiarité. Et puis, il y a cette idée de vigueur, de dynamisme, l'image utilisée est parlante. Construire un arc de triomphe, pas un mur des lamentations. Une action tournée vers l'avenir, même si elle s'inspire d'un passé idéalisé.
Bon, alors pour résumer un peu notre exploration, ce putsch de 1923, un échec sur le terrain, devient en fait une étape clé. Une étape dans la construction de l'idéologie nazie, grâce à ce procès transformé en tribune. C'est là qu'est théorisée cette contre-révolution comme une action fondatrice contre un ordre jugé illégitime.
Exactement, on a vu le contexte de crise terrible, l'action elle-même, et puis surtout cette rhétorique développée après coup, qui va avoir un impact énorme. Et ça soulève une question qui, je crois, dépasse largement ce cas historique, non ?
Oui.
Laquelle ?
Comment on distingue, dans une action politique ou sociale, ce qui est juste une réaction, une opposition à quelque chose, de ce qui est une tentative, justifiée ou non, de fonder ou refonder un ordre sur des principes jugés essentiels ? Où est la frontière, finalement, entre simplement réagir et vouloir reconstruire ou construire quelque chose de nouveau ? C'est pas toujours si simple à discerner.